Bonjour et bienvenue à Europe & Roll sur Radio Fadjet. Aujourd'hui, émission spéciale Vienne. À quoi vous fait penser le nom de cette ville ? Vienne est souvent synonyme de Wiener Schnitzel, la fameuse escalope, ou encore du Krapfen, beignet fourré de confiture, ou bien la Sahara-Torte, mais également de l'ONU et l'OPEP étant deux organisations internationales y siégeant. En commençant par le flash info habituel, suivi du zoom actu, l'équipe d'Europe & Roll vous emmène pour un voyage à travers Vienne. Au rendez-vous, une description du quotidien des jeunes et une présentation touristique de la ville. Pour accompagner le tout, je vous propose de la musique germanophone. Mais avant de découvrir Vienne, je laisse la place à Maxime pour le Flash Info. Maxime, quelles sont les nouvelles ?
Union européenne, boycott des JO ou pas ? Cette semaine a été marquée par un débat naissant concernant le boycott politique des prochains Jeux Olympiques qui auront lieu en Chine, à Pékin. Suite aux événements survenus au Tibet ces dernières semaines, les dirigeants européens, comme le président français Nicolas Sarkozy, ont évoqué la possibilité de ne pas assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux. Une possibilité relayée par le président du Parlement européen, Hans Poettering, qui a déclaré, je cite, « Nous ne devrions pas exclure un boycottage des Jeux Olympiques à Pékin. Nous voulons des Jeux réussis, mais pas au prix du génocide culturel des Tibétains. » Le point sur les positions des membres de l'Union européenne, c'est juste après le flash dans le Zoom Actu. Belgique. Enfin, un gouvernement. Le Premier ministre belge Yves Le Terme a obtenu samedi 22 mars la confiance des députés par 97 voix contre 48. Son gouvernement est soutenu par les démocrates chrétiens et libéraux, flamands et wallons, et par le Parti socialiste francophone. Mais sitôt nommé, le gouvernement est déjà sur la sellette, puisque le propre parti d'Yves Le Terme menace de quitter la coalition si la Flandre n'a pas obtenu de nouvelles compétences d'ici le 15 juillet. La réforme de l'État reste en effet LE sujet brûlant entre les deux principales communautés en Belgique, les Flamands étant partisans d'une plus grande décentralisation, contrairement aux Wallons. Chypre, un premier pas vers la réconciliation. Vendredi 2 mars, se sont rencontrés les deux présidents chypriotes, le grec Démétris Christofias et le turc Mehmet Ali Talat. On le sait, l'île est séparée entre une communauté turque et une communauté grecque depuis l'invasion de la Turquie en 1974. Mais pour la première fois, les deux présidents se disent partisans d'une réconciliation des deux parties de l'île. « Nous voulons résoudre le problème chypriote dès que possible », a déclaré le président Talat. Geste symbolique, les deux parties ont trouvé un accord pour rouvrir un point de passage sur la frontière qui sépare les Turcs et les Grecs. De quoi alimenter l'espoir d'une paix rapide. Traité de Lisbonne, la Bulgarie ratifie, la Pologne menace. Le traité de Lisbonne a été ratifié par la Bulgarie par voie parlementaire le vendredi 21 mars dernier. Le texte a été soutenu par presque tous les partis. Cette ratification intervient alors que le parti d'opposition polonais de l'ancien Premier ministre Jarosław Kaczyński menace de ne pas apporter son soutien au texte. Il réclame des garanties sur la souveraineté de la Pologne et sur le fait que la constitution polonaise reste la plus haute norme dans le pays. Malgré cette menace, le Premier ministre pro-européen Donald Tusk envisage une ratification d'ici la fin de la présidence slovène de l'Union.
Merci Maxime. Avant de continuer sur le thème de l'actualité, on écoute un air de musique. Voici Rouge de Rond du groupe Spilsbury.
Traum. So was
On retrouve maintenant Lisa pour le Zoom Actu sur la position des pays européens quant au boycott des JO de Pékin.
De nombreuses voix se sont élevées contre l'attribution des Jeux Olympiques d'été 2008 à Pékin. Reporters sans frontières, par exemple, appellent au boycott de la cérémonie d'ouverture pour protester contre la tenue des Jeux dans une Chine qui bafoue chaque jour les droits de l'homme et la liberté d'expression. La polémique a été relancée en raison des événements survenus récemment au Tibet. Des manifestations ont dégénéré à partir du 14 mars et ont été sévèrement réprimées par les autorités chinoises. Les élus ne peuvent pas ignorer l'enjeu politique de ces Jeux, qui constituent, selon certains, un formidable outil de pression sur la Chine. Petit tour d'horizon européen pour tenter de s'y retrouver parmi les nombreuses déclarations d'intention de nos hommes politiques. La question du boycott divise partout, et d'abord au Parlement européen, qui s'est réuni cette semaine en session extraordinaire pour condamner la répression au Tibet. Le président du Parlement, Hans Pöttering, a appelé le gouvernement chinois à respecter les minorités et à garantir la liberté d'expression. Il n'exclut pas la possibilité du boycott, estimant que, je cite, « tout homme politique responsable doit se poser la question de savoir s'il peut participer à la cérémonie d'ouverture ». Des avis divergents se sont exprimés au sein des groupes parlementaires. Daniel Cohn-Bendit, député des Verts, appelle tout le monde à, je cite, « foutre le bordel pour mettre fin à la dictature et à l'indifférence ». Pascalina Napoletano, qui s'exprime au sein du Parti Socialiste Européen, estime quant à elle que l'isolement de la Chine n'apportera rien à la situation des Tibétains et qu'il faut avant tout que l'Europe adopte une politique, je cite, « cohérente et de longue haleine ». Une résolution doit être adoptée par le Parlement le 10 avril prochain. Les autres institutions européennes n'ont pas non plus pour le moment de position clairement définie. Notons qu'au sein du Conseil, les ministres des Sports de l'Union européenne se sont exprimés contre le boycott. Pour la Commission européenne, le plus urgent est de permettre un dialogue constructif entre le Tibet et la Chine. Même flou artistique du côté des chefs d'État. La chancelière allemande a d'abord indiqué qu'elle trouvait la solution du boycott inappropriée. Mais vendredi 27 mars, le chef de la diplomatie allemande a déclaré que ni lui, ni le ministre du Sport, ni Angela Merkel n'avaient prévu de participer à la cérémonie d'ouverture. Autre rebondissement, à l'occasion de sa visite en Grande-Bretagne, Nicolas Sarkozy s'est entendu sur de nombreux sujets avec son homologue britannique, mais pas sur les Jeux Olympiques. Gordon Brown s'est déclaré hostile au boycott, tandis que le président français laisse cette éventualité ouverte. Il a affirmé que puisque la France serait prochainement à la tête de l'Union, il se devait avant tout de consulter les autres dirigeants européens pour savoir s'il irait à la cérémonie ou non. La ministre autrichienne des Affaires étrangères a résumé le dilemme général en indiquant que le boycott pouvait constituer, je cite, « un éventuel signal fort, mais que la question des droits de l'homme ne pouvait se limiter à la présence ou non de personnalités politiques aux cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques ». En bref, tout le monde souhaite une position commune de l'Europe, mais cela risque fort de rester un vœu pieux. La véritable question qui se pose finalement est celle de l'efficacité d'un éventuel boycott. D'autres solutions ne seraient-elles pas envisageables pour faire pression sur la Chine ? Nos hommes politiques ont beau jeu de pratiquer la langue de bois diplomatique, les citoyens savent pertinemment que ce sont les enjeux économiques qui dictent nos relations avec la Chine.
Après ce tour d'horizon de l'actualité, on enchaîne avec une chanson du groupe Angelina Express. Je vous propose d'écouter « Es ist nicht böse gemeint ».
Rückwärts aus der Tür, flehte bitte bleibe doch und bekam nur einen Tritt dafür. Das Wetter nass und kalt, jeder Virus machte bei ihm Halt. Er fühlte sich so alt und wollte doch so viel vom Leben. wusste, wie die guten Tories enden.
Europe and Roll, toute l'actualité des jeunes européens sur Fadjet.
À quoi ressemble, d'après vous, le quotidien des jeunes autrichiens, et plus particulièrement celui des Viennois? Cette ville est bien entendu connue pour son opéra et théâtre, ainsi que pour ses représentations de spectacles de chevaux dressés, les Lipizzans. Mais a-t-on affaire à des clichés? Que font les jeunes? Lucas nous en dira quelques mots au micro de Noémie.
Donc bonjour Lucas, donc vous êtes un étudiant autrichien qui étudie actuellement à Nancy. Et dans le cadre de notre émission sur Vienne, j'aurais aimé que vous nous disiez quelques mots sur votre ville d'origine. Donc nous la présenter brièvement. Qu'est-ce que Vienne? Comment est-ce qu'on peut définir Vienne?
Alors beaucoup de gens pensent que Vienne vit dans l'histoire en fait. Mais de l'autre côté, Vienne est aussi une ville très ouverte envers des nouvelles innovations, attire des jeunes artistes. Et c'est pourquoi il y a une vie culturelle très riche, florissante.
Pour éventuellement nos auditeurs qui voudraient se rendre dans la ville, est-ce qu'il y a des lieux à Vienne qu'on ne peut pas rater quand on est un jeune entre 15 et 25 ans et qu'on a envie de visiter la ville? Où est-ce qu'il faut aller?
Alors, premièrement, il y a des boîtes comme ailleurs pour tout genre de musique. De world music à alternative indie rock, mainstream pop, etc. Mais de l'autre côté, c'est aussi obligatoire, si on est viennois, d'aller de temps en temps à un bal, par exemple. Ou aussi, quelque chose qui est peut-être moins excitant, c'est d'aller dans un vignoble. Et c'est aussi une ambiance très conviviale.
Est-ce que vous-même, vous êtes déjà rendu à un bal viennois? Est-ce que vous pourriez m'en parler, nous décrire l'ambiance? On a pareil beaucoup d'images préconçues, toutes faites sur ces milieux viennois où justement les jeunes se réunissent.
Alors ça se passe souvent dans des chalets, des châteaux. On peut se rendre seul aussi, et même si on ne sait pas danser, c'est pas grave, c'est juste l'ambiance qui compte. Et il y a aussi des boîtes tout à fait normales à côté où on peut danser comme dans toute autre boîte.
Et est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui c'est une mode qui a tendance justement un peu à tomber en désuétude, ou est-ce que les jeunes sont toujours contents de se rendre dans ces bals? Est-ce que c'est justement branché?
Je pense que c'est toujours en vogue d'aller à un bal, justement parce que c'est différent et on ne les fait pas tous les jours.
On parlait tout à l'heure du fait que Vienne est au cœur de l'Europe, donc encadrée par les nouveaux pays qui ont intégré l'Union européenne. Comment est-ce que vous décririez la relation des jeunes autrichiens à l'Europe? Est-ce qu'ils se sentent des jeunes européens? Est-ce qu'ils voyagent beaucoup? Comment est-ce que vous qualifieriez cette relation des jeunes autrichiens et plus particulièrement des jeunes viennois avec l'Europe?
Vienne est une ville très internationale, c'est un siège de beaucoup d'institutions internationales, l'ONU, l'OSCD, l'OPEC, etc. Et de l'autre côté, Vienne est quasiment entourée des pays de l'Est, de plusieurs pays de l'Est, donc c'est une ville très multiculturelle et par conséquent une ville très ouverte et aussi ouverte envers l'Europe, mais comme partout, il y a aussi un certain euroscepticisme, bien sûr. On peut avoir plusieurs identités en même temps, ça ne se contredit pas. Je me sens viennois, autrichien et européen en même temps.
Avant de continuer notre découverte de la ville, un petit interlude musical. On écoute « Unter der Schnellstraße » de Tokotronik.
Europenroll, toute l'actualité des jeunes européens sur Fadjet.
Avez-vous déjà été à Vienne? Cette ville où se mêlent architecture romane, gothique, baroque, rococo et classique, sans oublier le contemporain, ville aussi célèbre pour sa gastronomie et ses manifestations culturelles, je vous propose donc une visite guidée à travers les rues de Vienne. On écoute Karina, notre guide.
Vienne, c'est différent. Tel est le second d'une ville pleine de contrastes et de surprises. D'un côté, Vienne représente la porte vers l'est de l'Europe. En effet, Bratislava, la capitale de la Slovaquie, est plus proche de Vienne qu'Innsbruck, sa rivale. De l'autre côté, il semble que cette ville riche en histoire est une enclave de l'Autriche d'aujourd'hui. Elle se distingue par sa majesté et le symbolisme qu'elle lui est attribué par sa position géographique unique. Vienne se situe en effet au centre de l'Europe. Elle a par ailleurs su attirer des organisations internationales telles que l'ONU. Pour la petite histoire, c'est la République autrichienne qui a construit gracieusement le siège qu'occupe actuellement l'organisation. Mais cela se révèle être aujourd'hui une bonne affaire. L'ONU à Vienne rapporte chaque année 300 millions d'euros à la ville. Mais Vienne n'est pas intéressante simplement sur le plan politique. Elle offre aussi des personnalités et des histoires mystérieuses. Elle a par exemple donné naissance à la psychanalyse avec Sigmund Freud, un artiste raté refusé aux Beaux-Arts et mieux connu sous le nom d'Adolf Hitler. La ville a aussi donné naissance à un génie excentrique, Hunnat Wasa, qui a notamment attaqué, muni avec des tomates et des œufs, une ancienne ministre. Celle-ci, au final, était aussi colorée que ses œuvres d'art, parmi lesquelles la célèbre Hunnat Wasa House. L'architecture de ce bâtiment ne laisse personne indifférent. Des arbres aux fenêtres, des lignes qui respectent la nature. Écolo, avant l'heure, la folie d'Hunnat Wasa se retrouve dans tout ce qu'il touche. On ne peut pas énumérer les personnalités fameuses de Vienne, sans mentionner le compositeur de Wiener Walzer Johann Strauss. Celui-ci a non seulement su charmer avec sa musique nonchalante, mais aussi avec sa beauté. Un jour, En répondant à un billet d'amour, il a déposé un cadeau dans l'enveloppe, une de ses boucles noires. Au fil du temps, ses adoratrices se sont multipliées, au contraire de ses cheveux. Alors Johan a su les arnaquer avec du chien, et s'en est acheté un et lui a coupé de temps en temps ses boucles. Enfin, l'histoire de Vienne ne serait rien sans son environnement architectural et culturel particulier. Vienne n'est pas seulement la fille propriétaire de 180 musées dans lesquels on trouve des Picasso, des Klimt et d'autres chefs-d'œuvre, mais la ville elle-même en soi est déjà un musée à ciel ouvert témoignant d'une histoire mouvementée. Vienne était la capitale reine d'un empire dominant 11 pays. Cet héritage se reflète dans les monuments magnifiques tels que le château de Schönbrunn et le parlement dont chaque pièce représente un des pays d'autrefois. Pour finir, les fameux cafés Rosa ou maisons de café, comme le café central, sont des lieux incontournables à Vienne. On peut y déguster plus de 31 sortes de cafés différents. Auparavant, l'intelligentsia de la ville et de l'Europe, comme Sigmund Freud et Léon Trotsky, ont pu profiter de cette diversité caféinée, tout en analysant et révolutionnant les esprits de leur temps. Mais ne vous arrêtez pas au café Rosa. On ne peut pas quitter Vienne sans avoir goûté le Wiener Schnitzel ou les Käsespätzle, avec un bon verre de bière autrichienne bien mousseuse. Mais attention, pour conserver une taille de guêpe et éviter le bierbauch, les abdos crocs en français, comme l'a fait une des plus belles femmes de son temps, Sissi, et Frodo ensuite, s'est dépensé dans une folle valse viennoise.
Après cette petite présentation touristique, on enchaîne avec quelques notes de musique britannique et plus particulièrement écossaise. Voici Glasgow Megasnake de Mogwai. We'll be right back.
everybody.
Europe Roll, toute l'actualité des jeunes européens sur Fadjet.
Pour continuer sur un point d'orgue aux couleurs irlandaises, je vous propose une critique du film Le vent se lève de Ken Loach. Vous en avez sûrement entendu parler. Maxime, quelles ont été tes impressions ?
Le vent se lève de Ken Loach. Le vent se lève traite de la colonisation de l'Irlande par la Grande-Bretagne. Depuis le XIIe siècle, l'Irlande s'est vue de plus en plus soumise à la Grande-Bretagne. Celle-ci a fini par diriger le pays, contrôler les terres, mater les révoltes et ainsi placer les Irlandais dans un état de servitude totale. Dans les années 20, un groupe de jeunes amis irlandais décide de prendre les armes pour lutter contre les soldats britanniques. Damien est un jeune médecin à l'avenir prometteur. Avec son frère Teddy, il se révolte contre les redoutables Black and Tans qui occupent leur pays, pillent, violent, torturent et tuent. Pendant des années, les deux frères avanceront unis dans leur combat. Prêts à tout pour leur cause, ils devront accomplir beaucoup de douloureux sacrifices. Finalement, leur action portera ses fruits, puisqu'un accord sera trouvé entre l'Irlande soumise et la puissante Grande-Bretagne. Mais cet accord n'est pas accepté par tous ceux qui ont participé à la lutte pour l'indépendance. Alors que certains rejoignent l'armée régulière anglaise, d'autres continuent le combat contre les Britanniques, parfois contre leurs anciens compagnons. La guerre civile qui s'ensuit ne laisse personne indemne. Le vent se lève est un film bouleversant, servi par des comédiens formidables et qui, au-delà de la violence visuelle qu'il comporte, nous laisse percevoir d'autres formes de violence. La violence psychologique des situations filmées, mais aussi la violence mythologique des destins tragiques des personnages principaux qui se dressent les uns contre les autres malgré les liens forts qui les unissent. Après avoir vu ce film, on ne peut s'empêcher de se poser des questions. Que ferions-nous à la place des personnages ? Jusqu'où serions-nous prêts à aller pour défendre notre pays ? Le vent se lève a reçu la Palme d'Or au Festival de Cannes en 2006, une récompense bien méritée.
C'est fini pour Europe & Roll cette semaine. On se retrouve dès dimanche prochain pour une nouvelle émission. Si vous souhaitez relire nos articles, réécouter nos émissions ou tout simplement nous faire part de vos impressions, rendez-vous sur fadjet.net ou europeandroll.eu. Je vous souhaite à tous une excellente semaine ensoleillée. Vu qu'elle s'annonce ainsi, espérons qu'elle le reste. Et vous dis à dimanche prochain sur Fadjet.